Donc c'est effectivement un voyage que je voudrais faire partager. Mais avant de voir les images, je ferai trois remarques. D'abord, les commentaires que j'ai préparés pour accompagner les images que vous allez voir ne sont pas celles de philosophe ni d'un scientifique, mais seulement de quelqu'un qui s'émerveille toujours de la créativité des humains, des hommes. Et donc je vous engage non seulement à chercher le sens des images, mais aussi à vous émerveiller. Deuxième chose que je voudrais dire, c'est que chaque fois que j'ai pu approfondir la signification d'une œuvre d'art à partir de commentaires de personnes autorisées, comme des historiens ou des anthropologues, je me suis rendu compte que les peurs et les craintes qui émanent des œuvres sont rarement univoques et qu'elles ne peuvent être comprises que si on les replace dans le contexte des sociétés complexes qui les ont produites. Elles deviennent alors inséparables de leur message. Et puis, troisièmement, je crois qu'il est important de se rappeler que jusqu'au début du 19e siècle, pour l'Occident, et presque encore aujourd'hui pour certains pays, l'idéalisme était ou est encore la règle. Et les images étant alors le seul moyen dans ces sociétés, le seul moyen de communication pour remplacer ou prolonger la parole et pour transmettre les idées et les messages, cela impliquait des codes. Et ces codes, nous ne les captons plus tout à fait ou parfois plus du tout aujourd'hui. Que nous sommes dans un monde où il y a des médias, l'image, la parole enregistrée et bien d'autres métiers encore. De ce fait, quand nous regardons des images passées, et même aujourd'hui, elles peuvent nous apparaître sans nuance, voire simplistes, alors qu'il n'en est rien, bien au contraire. Et comme vous allez le voir, elle témoigne souvent d'une extraordinaire sensibilité et d'une passionnante évolution des sentiments humains. Vous verrez qu'on va passer de la crainte à une période, la nôtre, qui peut être une de celles qui a le plus peur. Donc, on va passer les images.
La lumière, oui.
C'est celui de sécurité là, non?
De bien comme ça? Il y en a qui sont éblouis là.
Bon, il y a.
Merci.
Voilà, 15 millions, 15 de nos ancêtres, certainement une mise en commun à tous, a dessiné sur un rocher dans les entrailles de la terre ce petit bonhomme qui chavire devant la charge de l'animal. Certainement une des premières représentations du sentiment de peur. Dans quel but? Peut-être pour conjurer le sort de ce que l'on croit un chasseur, mais. Pourquoi une représentation humaine aussi schématique alors que celle du bison est des plus abouties? Difficile d'en dire plus dans l'état actuel des choses, de nos connaissances, mais dans tous les cas, il y a de l'effroi là-dedans. Il est sûr que l'homme de Lascaux, auteur de l'image précédente, n'a jamais rencontré celui qui a réalisé 10 000 ans plus tard ce serpent rouge incisé dans une falaise de Norvège. Et pourtant, la similitude est frappante. À noter que ce reptile sème apparemment la panique. Et plus encore que le bison de Lascaux, ce serpent hybride semble savoir parfaitement viser. Une fois l'humanité entrée dans l'histoire, c'est-à-dire à partir de, disons, 5000 ans avant Jésus-Christ jusqu'au premier millénaire avant Jésus-Christ, il y a toute une grande séquence où la sculpture d'animaux fabuleux va très largement se diffuser, le but étant alors de susciter peurs et craintes. On en dispose alors devant des palais pour montrer sa puissance. On en place également pour délimiter les espaces sacrés, pour en interdire ou en codifier l'accès. Nous sommes ici devant un palais chinois. Ces animaux ont été utilisés depuis l'Extrême-Orient jusqu'à l'Occident, comme ici dans ce temple de l'Inde. Cette sculpture apparemment plus pacifique, mais apparemment seulement, car quand on sait que comme un éléphant peut en furie peut charger son adversaire, la signification des espaces bornés par de telles sculptures devient évidente. Passez votre chemin ou soumettez-vous. Même chose dans notre temple hindou.
On va reprendre par ici, voilà.
Alors, des climaçons, on en connaissait beaucoup, comme ici à Persépolis. Vous connaissez certainement ces sculptures, superbes sculptures, dont le modelé prend magnifiquement la lumière du soleil, et d'ailleurs rarement voilé dans ces pays du Moyen-Orient. Et on a souvent assez beaucoup de peine à se convaincre que toutes ces sculptures étaient d'ailleurs peintes avec des couleurs vives, en général rouge et noir.
Bon, écoute, je vais appuyer là. On va faire autrement.
À croire que je ne sais pas me servir d'ordinateur, c'est presque vrai. Voilà. Alors là, on est au temple d'Edfou en Égypte. Vous voyez, pendant ces 5000 ans, on prend plusieurs exemples, avec l'Edfou et la statue de Horus qui complète et prolonge le message de l'ensemble architectural des 5 qualités physiques. Et dont la composition et les masses ne pouvaient qu'impressionner celui qui s'en approchait. C'est une erreur, une seule maille architecture. Vous voyez que l'architecture peut effectivement collaborer à cette quête de faire peur, de faire craindre. Ça a bougé aujourd'hui et d'ailleurs toujours aussi impressionnant. La petite flèche en
face de moi.
Tu vois?
Tu veux des lunettes?
Ça va aller mieux dans la
place.
Là, nous sommes dans Crète, et ces lions en forme d'écureuil inspirent le respect, la prudence, à nouveau la crainte, tant qu'ils sont tendus, prêts à se jeter sur celui qui viendrait enfreindre les règles du jeu. Mais si tous les animaux montent la garde, ce n'est pas seulement pour susciter une crainte primaire, je vous disais, est toujours ambivalent, c'est pour marquer aussi la nature exceptionnelle des lieux, mais c'est également pour signifier une réalité bien au-delà du visible. Car si, à l'évidence, la représentation de divinités ou de figurations monstrueuses avait pour but de susciter peur et crainte, la suivante, il y avait certainement dans le même temps, à l'intérieur et au pourtour des temples, des palais qui côtoyaient ces monstres, des figurations apaisées et apaisantes, comme cette déesse égyptienne de la beauté et de la bonté. De même, si cet Anubis à tête de chacal et peu amène et peut nous faire peur, nous, occidentaux du XXIe siècle, peuvent nous faire peur, en fait, il est là, il accueille les défunts dans l'au-delà. C'est une tombe égyptienne du IIIe siècle après Jésus-Christ. Le chien est ici, en fait, le symbole de la fidélité à son maître. Alors, il faut donc toujours se méfier du tout manichéisme. Apprécier ses œuvres sur le plan formel est une chose, mais en découvrir le sens profond est toujours plus complexe. La suivante. D'abord, à Athènes, puis à Rome, se produisent durant le premier millénaire avant Jésus-Christ, des ruptures philosophiques et religieuses radicales. Et avec l'apparition de ces idées nouvelles, les sculpteurs ont représenté la peur le plus fidèlement possible. De ce fait, on passe alors de se faire craindre, à la représentation de la peur elle-même. On change complètement de plan. Et la peur est alors assujettie à la violence dans des scènes mythologiques, comme ce superbe enlèvement de Proserpine, celui du XVIIe siècle, du Bernard d'ailleurs, d'un antique aujourd'hui disparu. La suivante. La peur passe aussi à cette époque-là par la représentation de Ophée, c'est le cas de la colonne de Trajan. Cette colonne a été levée à la gloire des armées romaines et au-delà de celle d'horreur. Mais ne nous y trompons pas, ce chef-d'œuvre a également pour but de susciter la crainte des ennemis potentiels. Donc les choses sont inversées par rapport au premier plutôt que l'avenir. Alors on peut faire la suivante, une lecture artistique de cette œuvre monumentale. Alors l'effroi se traduit par une composition très saccadée, avec des enchevêtrements des lignes, avec des contrastes forts entre les blancs et la lumière, et les noirs, les ombres, qui se heurtent. On peut aussi, bien sûr, on peut faire une lecture plus narrative, avec des visages effrayés, apeurés, une gestuelle tout à fait étudiée et réaliste. Mais il faut en faire aussi une lecture du message que délivre l'œuvre devant la puissance de Trajan qui est en haut à gauche. L'ennemi a une seule solution, se soumettre pour ne pas être passé par les armes. Ces œuvres de l'Antiquité gréco-romaine sont largement influencées sur le plan formel toutes celles qui vont être produites en Occident, au sens large, jusqu'au public. Voici d'ailleurs un exemple de similitude entre l'antique et le gothique, par exemple. Il s'agit de détails d'une descente aux enfers du XIIIe siècle. En revanche, comme nous le verrons plus loin, la nature des craintes et des peurs qui émaneront de ces œuvres, le monde christianisé, sera de notre ordre. On le verra tout à l'heure. La suivante. Mais alors, avant de voyager à l'Occident, je propose de faire un tout petit tour du monde pour voir ce que d'autres civilisations nous disent de la peur. Vous connaissez certainement ces marionnettes utilisées du côté de Bali, visages grimaçants et inquiétants de divinités ou de personnages mythiques qui finissent toujours, après plusieurs heures de spectacle, qui finissent donc de combattre. Et donc pour vaincre le mal. Mais pour nous, il est toujours difficile de distinguer les marionnettes maléfiques, c'est-à-dire celles qui font peur et qui représentent le mal, de celles qui font tout aussi peur aux non-initiés que nous sommes souvent, mais qui sont bénéfiques. Autre monde que celui des masques. Ils sont d'une extraordinaire inventivité, ce masque blanc, avec une bouche rieuse et particulièrement ambivalente. Vrai sourire ou rictus? un rictus de celui qui se réjouit à l'avance de sa prochaine capture. Il ne faut donc pas s'arrêter à la surface des choses. Tout est symbolique qui s'appuie sur une imagination sans limite se cache derrière les apparences formelles. Les masques africains ou du Grand Nord, et ça c'est dans l'Afrique, relèvent d'un art qui a longtemps été qualifié de primitif, mot à connotation péjorative, comme vous savez, mais aujourd'hui nous préférons parler d'art premier, et qui sont dans ce cas-là assurément premiers dans l'art de transmettre avec force des sentiments lors de danses rituelles. Nervosité du trait, non, nervosité du trait, couleur vive, éléments mobiles qui animent le masque durant les danses, la peur est facilement au rendez-vous lors de cérémonies. Maintenant, deux ou trois masques différents qui sont des pays du Nord, les Inuits, la Scandinavie. Le requin ancestral nommé Marna. Il est peint par des aborigènes, c'est quelque chose de très récent, plus commun. Il est très plein. Il est ici représenté en bas, avant de percuter la terre ferme contre laquelle il va se désintégrer. Avant de mourir en une puissante explosion, c'est comme ça qu'il raconte, il se transforme alors en une force spirituelle plus vaste et plus inquiétante encore. Elle est figurée au-dessus, sous une forme que je vais gérer d'insaisissable. Un retour à l'Asie, maintenant, au Tibet, où ses grands yeux subjuguent, Dieu de sagesse et de science. Il s'agit d'une divinité hindoue à la fois destructrice et protectrice, ayant un pouvoir absolu. Ses yeux regardent la terre et permettent aux dieux de trancher entre le bien et le mal. Ils incitent ainsi les fidèles à se tenir constamment sur leur garde, s'agissant de leurs faits et gestes. C'est un temple tibétain du 15e siècle. Alors, cette peinture, la suivante, représente des créatures rouges qui font peur, et elles font peur aux malins. Qui est à la mort, qui est symbolisé par un personnage bleu. Elles sont en fait des divinités bénéfiques, des divinités protectrices. S'il y a crainte et peur, paradoxalement, il y a aussi du réconfort dans ces figurations. C'est une peinture, même si tibétaine, du XVIIIe siècle. Non ? Alors, voilà, ça aussi, c'est assez extraordinaire parce que vous allez voir l'histoire. C'est un masque qui représente aussi donc une divinité d'apparence magnifique. Rouge, comme le feu dévorant de la férocité. Ce masque de danse rituelle provient de Mongolie, il représente l'un des 8 bouchers armés d'épées qui accompagnaient Bech, le dieu guerrier. Qui était très craint, mais qui, par transformations successives, est devenu protecteur du Dalai Lama au XIXe siècle. C'est un petit marché du XIXe, c'est pas vieux. Et vous avez certainement remarqué déjà que le rouge est une couleur qui, avec le noir, est presque toujours présente dans les scènes de peur. Alors maintenant, on va voir une étonnante gorgone méduse. Elle fixe son regard sur sa victime et celle-ci, une fois médusée, celle que Gorgone sort ses crocs, sa langue, pour dévorer sa proie. Et contrairement aux précédentes, l'image n'est guère ambivalente. Tout ici est effroi sans retour. On pouvait penser au premier abord qu'il s'agit d'une œuvre orientale, de cette filiation décorative des formes, avec ce qu'on vient de voir, et en réalité, nous sommes revenus à l'Occident, précisément en Italie, vers 500 ans avant Jésus. Comme vous pouvez le remarquer, la mondialisation d'aujourd'hui, on relate cette mondialisation, elle était déjà présente hein, sur les plans des arts. Les gens s'étaient baladés, il y avait vraiment une grande sensibilité commune. Je vous propose pour un temps de changer de registre avec des scènes effrayantes qui ont pour base des éléments déchaînés de la nature, notamment la mer. J'aurais pu prendre des exemples des éclairs, des choses qui sont extraordinaires avec les éclairs et la foudre. Alors, ce tsunami japonais du 19e siècle porte en lui une peur ancestrale. Même si aujourd'hui nous en connaissons les origines, la crainte est toujours présente. D'autant que tout récemment nous avons pu constater à deux reprises ce que ces remous peuvent produire. C'est une estampe donc japonaise du 19e siècle. La suivante, qui est une peinture pratiquement contemporaine, qui est une vague qui n'est guère plus rassurante. Il s'agit d'une peinture chinoise. Et la menace est signifiée par la forme soit de tentacule ou même de mâchoire qui cherche comme la mort, cherche à avaler sa proie, hein, qui cherche à appeler et à nous engloutir. Donc, même époque que la peinture précédente. Et alors, tout aussi intéressant, c'est de remarquer qu'à la même époque, dans les années 1820, le grand artiste anglais Turner, qui a préfiguré l'impressionnisme, a peint ce naufrage dans une ambiance d'Andersen. Donc il faut reconnaître le bateau avec sa vergue et son petit drapeau tout à fait en haut. Mettre du clair-obscur sur l'air nous montre juste ce qu'il faut pour faire surgir du froid. Notez qu'il utilise la même dramaturgie, une gueule géante qui avale le navire. Et puis j'ai mis en parallèle cette œuvre beaucoup plus récente, mais qui est à placer dans la même mouvance, bien que l'artiste l'ait intitulé sans titre. Mais malgré un calme apparent, la répétition inquiétante car infinie des vagues nous suggère que l'immensité peut nous perdre et in fine nous embêter. Donc nous en venons maintenant, après avoir fait les grands tours, à la production de la période chrétienne. Et peut-être plus encore que les religions orientale ou antique, le christianisme a généré une production artistique exceptionnelle en diversité, d'autant qu'elle s'est mêlée à de nombreuses cultures différentes et à s'en nourrir. Et par exemple, ici, elle nous montre ce qu'est la crainte, ou plutôt l'émoi ou l'incompréhension. Celle de Marie qui reçoit la visite de l'ange de l'Annonciation. La suivante. Marie qui, par sa culture, est encore dans la crainte de Dieu de l'Ancien Testament quand l'ange lui annonce qu'elle va être la mère de Dieu. Superbe peinture, c'est de même ligne. 16e siècle, donc, où les couleurs accompagnent le recul devant une nouvelle lourde à porter. Alors sur les deux visages d'ailleurs apparaissent des sentiments intérieurs d'une grande subtilité, crainte, hésitation, incrédulité, acceptation et sont mêlés. C'est intéressant de voir que l'ange aussi a peur de faire peur. En préparant cette présentation, je me suis rendu compte que par rapport à la masse des œuvres produites tout au long du christianisme, depuis disons, le 3e siècle, les premières représentations chrétiennes jusqu'à aujourd'hui, les représentations de la peur et de la crainte directement liées aux évangiles étaient relativement minoritaires. En nombre, bien sûr. Et les figurations qui qui représente d'autres scènes que l'enfer, puisque c'est de l'enfer en principe qu'on passe tout de suite, auquel on passe tout de suite, quand il s'agit de peur et de crainte. Donc les autres scènes que l'enfer sont en fin de compte, comme on va le voir, des scènes de crainte passagère, mais de crainte d'attente, et par conséquent, des craintes qui réalisent. La suivante, on va voir donc ce genre de... Donc voilà, alors vous avez ici, a priori, de la panique, qui est représentée par une peintre italienne du XIIIe siècle. Il s'agit des apôtres dans le vent violent de la tempête, leur mouvement accentué par des couleurs claires et vives qui s'attachent sur un fond noir, témoignent de leur désarroi. De même, cet artiste catalan du XIIe siècle a également peint la tempête. Mais regardons les apôtres, ils ont de grands yeux écarquillés, dirigés vers le haut, où pointe déjà une espérance alors que Jésus, au premier plan, lui, dort. Mais on ne peut comprendre ces figurations, c'est la précédente, la figuration de la mère déchaînée, que si l'on sait qu'elles sont indissociablement liées à la scène suivante, je ne vous montre pas, mais qui est la suivante, c'est celle où Jésus apaise la tempête. Leur signification devient encore plus riche lorsque l'on a compris qu'il s'agit aussi de nos tempêtes intérieures qui seront apaisées. En réalité, la suivante. Seules les représentations destinées à fondamentalement susciter la peur puis la crainte sont celles de l'enfer. Elles se développent à partir du 10e ou 11e siècle, pour presque disparaître le 16e siècle, dans tout le village. Nous sommes ici au 15e, devant la descente aux enfers de Dirk Putz. Tout est fait pour que la peur de ceux qui tombent en enfer suscite en retour la crainte chez les vivants qui n'aimeraient pas, suivant dans leur vie, qui n'aimeraient pas suffisamment leur prochain comme eux-mêmes. Donc c'est une crainte pour faire peur. La composition et la structure de la peinture utilisent les mêmes recettes que celles des œuvres déjà vues, fond noir, lignes désordonnées, couleur rouge des démons. La peur sur les visages, bien sûr. La suivante. Attention à celui qui aurait enfreint le commandement. Que de regrets éternels lui fallu y penser avant, dit ce monsieur qui se prend à regretter ses agissements de vivant. Faire réfléchir. Alors cette œuvre suivante de Dirk Putz, un grand pouvoir évocateur, une extrême qualité dans la peinture superbe, jusque dans le moindre détail. Mais il faut se dire que toutes ces représentations, effectivement, remplacent la lecture, le texte. Alors comment traduire un texte qui parle de la peur sans désigner des choses qui font peur? Ça, c'est vrai. C'est une photo qui sera passée dans notre contexte. Et aussi, la suivante, il faut replacer la scène de l'enfer dans son contexte. Bien sûr, on ne comprend rien. Et c'est un effet en face de la descente aux enfers, qui est à gauche, se déploie le face-à-face avec Dieu, ou l'aller vers le face-à-face avec Dieu, avec le face-à-face avec la paix et la sérénité infinie auquel tout homme est promis. Cette belle peinture du XVe siècle est à voir au musée de Lille. Bon, vous devez connaître certainement l'œuvre suivante, celle de Jérôme Bosch. Il s'agit du Jardin des Délices, ce jardin extraordinaire où tout est possible et imaginable. Bosch nous fait voyager. Là. Et c'est un monument de la peinture occidentale, c'est un au radio à Madrid, elle donne autant à ressentir qu'à voir. La qualité picturale de l'œuvre est exceptionnelle et sa composition tout à fait étonnissante. On la regarde et l'œil se balade en permanence d'un sujet à l'autre, et quand ça s'approche, d'un croustillant extraordinaire. Et par une ambiguïté formelle sans limite, Bosch tente en fait de nous faire comprendre que la création et l'au-delà restent totalement inimaginables pour nous humains. Ici, il s'agit de la partie centrale de la triptyque. Nous allons voir les deux volets latéraux qui sont à droite l'enfer et à gauche le parapluie, à gauche le paradis. L'enfer le suivant. Voilà. Cet enfer débordant d'imagination est en quelque sorte poétisé et il est assurément beaucoup moins stressant que celui de dire d'autres ce qu'on a quand même tout à l'heure à l'instant. Et on pourrait même se demander si Bosch croyait vraiment que nous pourrions aller à l'enfer. Tant Dieu est amour, et tant que lui, il a du recul et de l'humour là-dedans. Il y a de l'humour là-dedans dans sa représentation. C'est une représentation qui nous rendrait presque curieux d'aller faire un tour à l'enfer. Avouons toutefois que l'extraordinaire ambiance tout aussi déroutante, mais combien possible du jardin d'Éden pour nous voir. Voilà, qui en face. J'avais oublié qu'elle est en face. Et bien plus attirante avec ses lignes calmes, ses verts pâturages et à l'évidence mille choses à y voir. Ça fait de temps en temps du bien de s'arrêter de se faire peur. Voilà, je crois qu'il faut prendre des un bout de calme, parce que vous allez voir après. Bien sûr. Voilà. Attention, purgatoire. Alors, c'est que le purgatoire est doctrinalement pénalement flou et ancien et flou. C'est quelque chose qui a beaucoup été en avant, mis en avant pendant le Moyen-Âge, puis aussi au 19e. Alors, il est censé adoucir quelque peu la peur provoquée par l'enfer éternel, mais il faut cependant le traverser et regarder comment, malgré les flammes, ces personnages traversent ce feu purificateur pour tenter d'atteindre la félicité. Les visages des personnages sont certes sérieux, mais l'espérance l'emporte sur la peur. C'est assez intéressant d'ailleurs, des œuvres. C'est une peinture anonyme du 15e siècle, certainement, peut-être un peu après. Alors, il y a de nombreux exemples aussi dans la sculpture de Jugement Dernier au tympan des églises. Je vous montrer celui de Concle. Tout un tas, je vous montre celui du portail de la cathédrale de Bourges. Il est intéressant d'y analyser la similitude de traitement de l'enchevêtrement des corps que vous avez tout à fait en bas, à droite de l'enfer. Mais cette remarque n'est bien entendu valable que dans cette petite partie de la sculpture où les trois quarts, les 4/5, même de la surface, racontent le paradis, bien sûr. Alors, il faut se dire aussi que ces œuvres sur les tympans sont des leçons de vie sous lesquelles on est invité de passer pour atteindre le sanctuaire qui est lui-même préfiguration de la Jérusalem céleste. Tout ça, c'est très complexe, très intéressant, il faut tout assimiler. Dans cette séquence infernale que je viens de présenter, on va citer encore un détail du chef-d'œuvre de Michel-Ange, c'est-à-dire du gigantesque et dramatique Jugement Dernier de la chapelle Sixtine, où le dieu à craindre prend le pas sur le dieu aimant. Alors, c'est un personnage extraordinaire, comme je dirais aujourd'hui, il a trouvé le maître à zéro. Et ça, pour terminer la collection de l'enfer, c'est pour montrer la diversité de ce qu'ont pu produire les artistes, c'est une petite mosaïque avec très peu de moyens, 3-4 couleurs, etc. Il y a une vie extraordinaire dans cet enfer qui figure dans le baptistère de Florence. C'est quelque chose tout à fait bon à dire. Voilà. Alors, parallèlement à ces représentations de l'enfer, petit à petit vont émerger d'autres scènes qui sortent de mythologies grecques, romaines et chrétiennes. Ici, on a par exemple, à partir du 16e siècle, on a ici des scènes qui se dégagent de la figuration des évangiles de l'Ancien Testament. Et ici, on a une peinture de Carpaccio, ce peintre italien absolument magnifique. Et c'est la scène du lion guéri par Saint Jérôme, plutôt mythique. Vous savez que Saint Jérôme avait recueilli un lion qui était malade, il le guérit, du coup l'animal le suit comme son chien. Les gens, les moines autour n'étaient pas au courant, et puis il y a de la panique. Alors ici, la peur est naturellement générée par une composition basée sur la ligne oblique, hein, c'est une leçon, une chose qu'on retrouvera tout à l'heure d'ailleurs. Cela confère à la scène une ambiance de panique qui contraste bien évidemment avec le calme de Saint-Jérôme et de son lion. Superbe. Alors, malheureusement, on ne peut voir que des choses de Carpaccio qu'à Venise, parce qu'il est resté toute sa vie à Venise, et particulièrement qu'il s'est avoué de sortie de Venise. Faut aller à Venise. La suivante. Alors, l'autre grand classique, qui n'est pas proprement parlé chrétien, c'est le massacre des innocents, c'est un détail, dans le pas très long. Avec l'autre registre, là, on ne veut plus faire peur. La composition est tachée, toujours, avec des gestes très forts, mais ce tableau n'est pas destiné donc à faire peur, c'est ce que je disais à l'instant, mais plutôt à susciter de l'indignation. Et puis à montrer le courage. La peur et le courage de la mère essaie de sauver son enfant. Donc vous voyez, on change le registre à ce moment-là, on raconte des histoires. Et c'est à partir aussi du 16e siècle et puis des trois siècles suivants que l'on commence également à représenter la peur pour elle-même. Sans but spirituel ou philosophique affirmé en particulier. Alors c'est un changement qu'on pourrait dire au premier principe de révolution, puisque l'art n'a plus pour finalité d'avoir une influence sur l'homme qui regarde l'œuvre, mais simplement pour transcrire l'effroi, l'angoisse et le désespoir. Et ces changements vont s'accompagner d'une recherche incessante de la figuration de la peur. La suivante. C'est le cas de Léonard de Vinci dans ses études de la peur de ses chevaux paniqués. Et aussi, vous le voyez, de cette étude de psychologie comparée entre un homme tout à fait en bas, un lion agité et un cheval agité par la férocité qui est elle-même induite par la violence et le froid. Superbe conflit, extraordinaire qualité. Regardez les petits traits. Je pense que ça devrait être exposé dans une vraie exposition de. Sur Léonard de Vinci de Londres. C'est une œuvre qui est de 1505. Autre étude superbe d'un visage apeuré, celle du Pontormo, qui était un peintre aussi du 16e siècle, élève de Michel-Ange, qui a laissé une dessin d'une grande expressivité. Un travail qui est ici un travail préparatoire d'une peinture définitive où les sentiments de l'artiste, là, les sentiments de l'artiste commencent à être mis à nu, on commence à voir à travers ses œuvres le sentiment profond de l'artiste lui-même apparaît. L'artiste, hein, c'est pour ce moment-là d'ailleurs qu'on commence à voir les noms des artistes. C'est plus totalement une école, il y a une artiste qui rentre dans les dessins. La suivante. Je ne me souviens plus tout de suite du nom de l'artiste qui avait ça, mais c'était au 18e siècle. Remarquez la qualité du trait avec ses répartitions des gris. Tout est tendu quand on regarde ce dessin, tout est tendu pour que le regard revienne vers les yeux, vers la bouche. On peut se balader mieux pour les ramener vers les yeux, vers la bouche. La spontanéité du trait est ici une des charmes de ces dessins et se retrouve pas nécessairement dans les peintures définitives. Ça, c'est une étude pour les peintures définitives. Quand on regarde la peinture définitive, cette qualité-là de spontanéité ne se retrouve pas forcément. La suivante. Ça, c'est une peinture, une méduse. On l'a vu tout à l'heure, une méduse, on l'a une autre. Celle de Caravage, c'est pas celle du théâtre obscur du XVIIe siècle. C'est un extraordinaire portrait asexuel. Là, si c'est une femme ou un homme. Alors, cette méduse fait peur quand bien même sa tête est coupée, bruyante de serpent, chevelure folle, yeux exorbités, mais une bouche aux lèvres parfaites, qui est quand même, cependant, un gouffre béant prêt à manger sa proie, à aller encore vers l'eau. Comme le dit, le précise Dominique Poton, paradoxalement, l'horreur est ici dans la beauté. La suivante. À la fin du XVIIIe siècle, Le Queux, un grand théoricien de l'architecture pré-révolutionnaire, va faire des recherches sur l'expression, sur l'expression en général, et voici un de ses dessins de visage effrayé, un détail. Il appartient à une série d'études où la figuration des sentiments domine. Et la suivante, vous allez voir que il va, à travers ses recherches de la forme très géométrique, il va élaborer une codification d'une expression presque scientifique. Cette recherche est à mettre, est un reflet d'une époque où la raison émerge. Recherche à figurer, scientifiquement d'accord. C'est ce que je veux dire. Et puis, 20 ans après, rupture à nouveau. C'est l'arrivée, c'est ce Saturne dévorant ses enfants, particulièrement violents d'ailleurs, de Goya. Le dur de 1820, oui. Alors, plus rien à voir avec le dessin précédent. Le romantisme s'installe. Victor Hugo a commencé à écrire, à la même époque. Alors, remarquez, j'attire votre attention sur la composition des ordres. Sur la répartition des couleurs, rouge et flou. Alors regardez-les bien parce que c'est une peinture qui nous aidera à comprendre tout à l'heure certaines œuvres non figuratives du XXe siècle. Et cette peinture annonce effectivement deux siècles de peinture. Alors nous sommes au XIXe siècle, plein de changements à cette époque-là. C'est un fourmillement dans les idées, la suivante. Voilà. Alors, c'est des changements générés notamment par l'arrivée de la photographie. Cela va avoir des effets pour diversifier les écoles de peinture, comme par exemple celle de l'hyperréalisme. On peut alors, comme la photographie, c'est le cas de cette superbe toile du Suisse Ferdinand Hunner, élaborée en 1880 ou environ. Il s'agit d'un cauchemar, c'est un détail, vous voyez que tout autour il y a des gens qui sont endormis, qui dorment calmement, et lui, c'est un cauchemar. On voit la nuit sous son voile noir, qui dévore ce que la naissance interdit de préciser ici. Enfin, je vois qu'il n'a pas compris d'ailleurs. Et c'est ce que disait le petit serpent tout à l'heure. Si à la même époque l'impressionnisme, vous avez vu tout à l'heure Turner, j'en connais pas, mais avec une autre école qui parlait à tout ça, il y a encore de la peinture académique, si vous voulez. C'est le cas de peinture acadique très figurative qui continue à être très prisée dans les salons de peinture parisiens. Par exemple, c'est le cas du peintre Jérôme qui a eu un énorme succès, qui a une énorme production aussi. Il s'agit ici de l'éminent surréaliste qui descend l'escalier en engendrant une crainte grotesque chez les courtisans. Alors, le ce tableau qui reste à la surface des choses pourrait plutôt sourire quand on regarde une chose. Il s'agit de la peur feinte, comme laisse penser ce personnage qui se retourne en haut et à gauche. Il s'agit d'un des sommets de l'hypocrisie, en fait, qui est décidé là. L'éminence qui fait semblant de ne pas voir qu'on fait de la croix, de la craindre, et les courtisans qui craignent de ne pas être vus en train de faire croire qu'ils craignent. Alors, il y a beaucoup plus d'efficacité dans ce dessin, avec lignes obliques. On peut faire des comparaisons avec quand même tout à l'heure. Une très grande, un minimum de moyens, quelques tâches. C'est très épuré. Et c'est traduit magnifiquement cette manifestation sympathique. Une manifestation qui est à rapprocher à la peinture suivante, qui est un peu postérieure, qui est de 1921, on avance dans le temps, et bien plus gravement, Albert Birkst, un Allemand qui nous fait toucher du doigt une peur issue de la violence des grandes grèves de la première moitié du 19e siècle. Dans cette manifestation, avec drapeau rouge, là aussi, sur fond noir, toujours, la peur émane de ces visages d'hommes qui sont totalement démunis. La peur est générée par ceux qui n'ont plus rien à perdre. Un désespoir. Alors, presque au même moment, apparaissent la non-figuratif et l'abstrait. Comment les peintres ont-ils pu alors exprimer la peur sans figuration? Et je vous dis tout à l'heure de regarder Goya. On retourne l'image de Goya, on ne voit plus que c'est un visage, mais on a la même réalité. C'est une peinture de Karel Appel des années 1960, et qu'il a intitulée Hommes et animaux dans la tempête. Remarquez donc que la composition et les couleurs et l'agitation des masses colorées sont proches des peintures, toutes les peintures d'ailleurs prises en vue depuis le début. Autre peinture, contemporaine, celle de Asger Thion, qui est intitulée, américaine, intitulée Réunion sur le rivage de la mort. Là, c'est un tout petit peu figuratif, on peut voir des visages. Permis. On y ressent la même violence, et plus encore que dans nos peintures figuratives, nous sommes renvoyés à notre sensibilité, à notre sensibilité individuelle. Ce n'est plus par l'image descriptive, mais par le ressenti de son effroi intérieur traduit par le geste et la couleur que le maître s'adresse directement à notre effroi intérieur. C'est comme ça qu'il faut recevoir ses œuvres. Et effectivement, les replacer dans toute l'histoire de la peinture. La suivante. Un peu plus légère, on ne peut pas passer sous silence une autre expérience de notre époque, du XXe siècle maintenant, c'est celle de la peur que l'homme ne peut que lui-même se faire. Aujourd'hui, elle allant voir des films noirs d'horreur. Et j'évoquerai cela en rapprochant cette peinture japonaise du XVIIIe siècle du film Les Oiseaux de Hitchcock. Je ne me trompe pas, Hitchcock, mais en fait, on a tout à fait cette impression de Hitchcock. Les corbeaux nous assaillent à travers les acteurs étrangers. Autre rapprochement, c'est cette photo de mode. Vous connaissez tous la scène de la mort en trousse où Gary Grant est poursuivi par un avion. Et là, c'est une image qui a été utilisée par Dior pour vendre ses robes. Et ça, c'est un signe d'état. On arrive à la marchandisation de la peur. Même pas peur, comme dit l'antifice. On peut faire la même constatation à propos des bandes dessinées composées toutes entières de scènes de peur. Leur auteur en souvent bien moins attentif qu'on peut le croire. Ici, nous sommes exactement revenus il y a 5000 ans avec ces personnages qui gardaient dans les temples. Alors là, c'est une bonne femme, mais elle fume, en fait, elles sont tout aussi gardiennes, je dirais. Et l'accès à l'espace. L'accès à l'espace du pouvoir que l'on voit au fond est donc interdit, borné par ces deux grands personnages. Toujours dans la même bande dessinée, on retrouve la même bonne vieille formule, des personnages fabuleux, rouge et noir, entourés de crânes qui piochent le sol, etc. Et on va voir que ça, c'est copié sur, par exemple, cette scène de superbe triptyque que l'on retrouve de Grunewald à Colmar. Donc, c'est un siècle avant, les gens sont rouges, ils font noir, et les crânes qui se baladent partout. Merci. Alors pour terminer le voyage, j'ai choisi 4 ou 5 œuvres qui, à mon sens, éclairent particulièrement bien les peurs et les craintes de notre temps. Alors vous connaissez bien sûr tous le cri de Munch. C'est une représentation de panique, d'effroi absolu, de désespoir sans fond. C'est un cri inaudible qui nous assaille. Est-ce que c'est une fuite de l'insupportable, un moment d'angoisse terrible? Même que nous dit ici sa crainte permanente, quand on connaît sa histoire, de ne pouvoir échapper au délire, de ne pouvoir rester dans le monde, ce monde qui existe, là, au fond, est juste un ou deux personnages, vous verrez, parce que ça va, on va comprendre l'image après, dans une autre image. En d'autres termes, il a peur de la peur qui s'écrite. Cette œuvre témoigne de la lutte héroïque que l'artiste a dû mener contre ses propres démons. Il nous signale par là de regarder l'horreur qui pourrait nous habiter. Cette œuvre a été réalisée dans les années 1880. Et nous, il est bien éloigné, et peut-être pas d'ailleurs, des premières œuvres que nous avons vues tout à fait au début. La suivante. Sous une forme picturale, bien différente, cette toile de Toulouse-Lautrec est en fait très proche de l'œuvre précédente, réalisée pratiquement à la même époque, 2 ans après. La toile est intitulée Le docteur Tapier dans un couloir de la Comédie-Française. Alors pourquoi vous montrer cette œuvre? Regardez la ligne. La fête est sur la scène, à gauche. L'animation dans les couloirs, à droite, et au milieu, presque suspendu, au-dessus du tapis rouge, le docteur noir. Il est seul, il est perdu, il est rejeté par la force centrifuge irrésistible de la société qui l'entoure et qui l'ignore. C'est la grande peur du vide et de la détresse que représente ici Toulouse-Lautrec. Peut-être ce peintre nous délivre-t-il sa propre détresse, donc de sa vie, c'est certainement ça. C'est une des grandes questions de notre temps, celle de la solitude et sa compagne d'angoisse. Je vous encourage à aller voir ce tableau qui est au musée d'Albi. Cette main sur fond rouge est une sérigraphie du peintre américain Roy Lichtenstein. Elle a été réalisée beaucoup plus près de nous en 1973. Montrer du doigt de cette façon est un geste qui constitue une accusation, une insistance, un ordre, qui par voie de conséquence suscite la crainte, voire la peur. Et pour comprendre cette œuvre, il faut savoir qu'elle a été réalisée alors que l'armée américaine venait d'imprimer des affiches de recrutement assez proches avec une main similaire, qui était où il est écrit. We want you, c'est-à-dire nous voulons pour recruter les gens pour le Vietnam. Quand on y réfléchit bien, combien de publicités de slogans aujourd'hui de même nature sont autant d'enfermements dans la soumission générée par des décisions prises à notre place et qui nous sont beaucoup subtilement, certes, mais imposées comme dans ces affiches évoquées par cette peinture. Une pièce vide, avec une porte qui donne directement sur la mer, vide elle aussi. À l'intérieur de la maison, comme à l'extérieur, aucune trace d'espoir. Cette toile avec des couleurs anodines, qui nous fait sentir des sentiments que l'homme peut avoir devant un vide existentiel. Cette toile de 1953 du peintre américain Hopper pourrait être intitulée « La peur est rien ». Vide identique dans cette photo que j'ai prise dans un journal il y a 15 jours. Vide autour de ces Palestiniens perdus dans le désert, même couleur, finalement. Perdus dans le désert alors que les chars de l'armée israélienne venaient de raser le village de Tente dans lequel ils habitaient. Et en fait, ce tableau de Magritte, qui est une œuvre qui exprime le mieux une des terreurs les plus enfouies qui soit. Le tableau est intitulé Le viol. Il est d'une inquiétante étrangeté. La tête, en fait, fait référence, et Magritte est extrêmement cultivée, fait référence à celle de la Gorgone, que nous avons vu tout à l'heure, et qui mangeait ceux qu'elle méprisait. Or, ici, la bouche est un sexe de femme. Bien sûr, un sexe regardé. Savant de peinture, tout un symbole, qui en dit long, très long sur notre société de violence, de viol de cour. Ce viol que la violée conserve en elle, définitivement porteuse d'angoisse et d'effroi caché, conservée par devers elle, et qu'elle ose dévoiler. Cette violence qui reste invisible et que traduit si bien ce visage figé. Violence que l'on ne peut peut-être percevoir qu'avec une infinie douceur attentive. Je vous le disais en commençant, tous les grands chefs-d'œuvre sont ambivalents et cachent des réalisés comme au premier abord on ne sait voir. Mais pour détendre l'atmosphère, je vais vous présenter deux choses maintenant. La suivante. Alors, je vous rappelle que nous avons tous eu peur quand nos parents nous racontaient des histoires en nous couchant. Par exemple, celle de la petite Esmeralda qui a rencontré l'ogre méchant avec des gros poils sur le bras et grandes dents, et pourtant, il a fini par l'aimer, Esmeralda. Il paraît même qu'ils ont eu beaucoup d'enfants et que lui n'en mange plus au cœur, contrairement à Saturne de l'Égypte. Bien sûr. Et souvenez-vous aussi de la peur bleue que vous avez eue quand les ours ont retrouvé boucle d'or dans leur lit, endormis. Heureusement, la petite dandinette a pu se sauver en sautant par la fenêtre. Tout s'est terminé alors parfaitement bien, d'autant que vous avez envie d'aller bras de pas. Je vous remercie.